Il y a plus de 20 ans, Pika Éditions publiait ses premiers volumes de manga en France. Aujourd'hui, cette maison d'édition compte plus de 1800 titres à son catalogue et continue de nous faire connaître des œuvres rassemblées autour d'une idée, la création et l'inspiration japonaise. Un manga, c'est environ 350 grammes de papier, de dessins, de dialogues, mais c'est surtout un long voyage autour du monde, des auteurs japonais jusqu'à nos mains de passionnés en France. Et pendant ce voyage, des tas de petites mains se relaient pour réussir l'exploit de nous faire découvrir tous ces personnages qu'on va adorer ou adorer détester. Bienvenue dans le Pika Podcast, un nouveau format que la maison d'édition Pika, spécialisée en manga, a choisi pour vous faire vous aussi voyager et retracer le trajet de vos mangas préférés. Je suis Amandine, et je serai votre hôte durant toute cette saison pour lever le voile sur le mystère de l'adaptation ou de la création d'un manga. Nos invités du jour sont Anna et Julie. Anna est éditrice chez Pika Éditions, elle travaille dans le milieu depuis 6 ans et dévore des mangas depuis 18 ans. Julie Seta, quant à elle, est éditrice chez Nobinobi et travaille dans l'édition depuis 3 ans. Mais cela fait plus de 20 ans qu'elle lit des mangas. Anna, Julie, bonjour.
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 Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Pika Podcast où aujourd'hui on va explorer le métier d'éditeur et d'éditrice au sein de la maison d'édition Pika Édition après avoir vu le métier de directeur éditorial, ce qui va être intéressant, je pense, pour la suite de l'épisode. Pas de surprise, du coup, pour la première question, je vais vous demander de décrire les responsabilités d'éditeur et d'éditrice, chacune votre tour peut-être, parce que vous avez peut-être des choses à ajouter. On va commencer par Anna, tu pourrais nous expliquer?
Chez Pika, du coup, la responsabilité d'une éditrice ou d'un éditeur, c'est d'accompagner un livre depuis donc l'acquisition par le directeur éditorial jusqu'à sa création en version française, jusqu'à l'envoi chez l'imprimeur, en fait.
D'accord. Donc, c'est juste après le directeur éditorial, vous prenez, comme tu disais, la suite des tâches. Et peut-être que Julie va pouvoir répondre à une autre question qui est: quelles sont justement les différences entre le rôle de directeur éditorial et le rôle des éditrices?
Le directeur éditorial, son rôle est plus en amont, c'est lui qui choisit le titre ou les titres qui vont être acquis, et l'éditeur, son rôle arrive après, c'est lui qui va suivre le livre et faire passer le livre d'un manga japonais à un manga commercialisé en France.
Donc vous travaillez ensemble main dans la main, en fait.
C'est plus une question de relais, en fait. Il avait le ballon avant et ensuite il nous dit c'est bon, c'est à votre tour.
Ah, il passe le ballon et vous prenez la suite. On a eu quelques questions des auditeurs et auditrices sur les réseaux sociaux et il y en a une qui est revenue assez souvent, c'est: quelles études a-t-on besoin de faire pour devenir éditeur ou éditrice? Et surtout, faut-il parler japonais?
C'est intéressant parce que Anna et moi, on n'a pas forcément le parcours typique, parce que du coup, moi, j'ai fait des études de lettres modernes et après, j'ai fait un DUT d'édition et des études de japonais. Mais il se trouve que le japonais n'est pas forcément nécessaire pour devenir éditeur de manga, même si dans les années récentes, ça devient vraiment un plus. Et au sein de Nobinobi, c'était important d'avoir quelqu'un qui parle japonais, comme on est une petite équipe. Et du coup, je fais des tâches d'éditeur sur le suivi de la production, mais j'aide aussi sur la prospection. Donc, on voulait quelqu'un qui parle japonais.
D'accord. Donc, français, anglais, pour pouvoir communiquer avec les interlocuteurs, interlocutrices qui sont au Japon, je pense.
Tout à fait.
Ok, d'accord. Et du coup, Anna, quel est ton parcours à toi? Comment es-tu devenue éditrice?
Alors moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le japonais. j'ai d'abord fait des études de japonais. J'ai fait une licence LEA, donc anglais et japonais. Et ensuite, j'ai fait un master édition pour me professionnaliser, en fait. Mais après, j'avais un peu dans l'idée de base, ça a été un peu mon objectif de base depuis que j'étais à peu près au lycée et collège, que j'allais travailler dans le manga, donc j'avais fait un petit peu mon parcours en fonction de ça. Mais après, il est vrai que pour une éditrice ou un éditeur peut très bien faire que des études d'édition ou des études de lettres puis d'édition et rentrer dans le milieu du manga du moment que généralement ce qui est attendu, c'est de la passion, bien sûr. Bien connaître le milieu, le japonais comme a dit Julie est très souvent un plus, et puis bien connaître le métier d'éditeur, tout simplement.
Donc les études d'éditeur éditrice sont quand même assez essentielles pour au moins appréhender le travail, en fait, et comment on va l'effectuer.
Oui, tout à fait, oui.
Et c'est souvent apprécié d'avoir fait un stage dans l'édition, et même si on en a fait un dans le milieu du manga, ça aide vraiment pour rentrer dans le milieu.
Ok, donc ça nous dresse une petite carte en fait, de... parce que c'est vraiment une question qui est apparue pas mal de fois sur comment devenir éditeur ou éditrice de manga. Donc là, vous avez une petite carte, je pense, mentale de quelles étapes sont un petit peu essentielles pour arriver là. On a reçu une autre question à laquelle on avait répondu, mais on nous a demandé des détails. Le délai entre l'acquisition d'un titre et sa sortie, on l'avait dit, hein, ça peut être extrêmement long, notamment pour plein de raisons relatives au milieu ou justement aux animés, etc., qui pourraient sortir potentiellement. Mais on nous a demandé la question pratique, alors vous avez peut-être pas la réponse, mais je vous la pose quand même, sur le temps des négociations, en fait.
En tout cas, chez Pika, c'est plus le rôle de Mehdi. Chez Nobinobi, ça sera plutôt le rôle de Pierre Alain, qui est le directeur éditorial de chez Nobinobi. Mais le temps des négociations, ça peut vraiment être très très long, ça peut s'étendre sur plusieurs années pour certains titres, mais ça peut être très très court, ça peut se faire en deux semaines top chrono quand le titre est quand on s'est signalé suffisamment tôt et que personne n'est là, que personne d'autre ne le veut. Donc là, ça peut aller très très vite.
C'est pas très vendeur parce que genre personne ne veut de celui-là, donc on va le prendre.
Si, non, ça mais peut ça arrive notamment comme Nobinobi est sur un secteur très particulier. Ça arrive que Nobinobi s'intéresse à un titre qui va pas forcément intéresser les éditeurs mainstream. Donc.
Et c'est pas pour ça qu'il ne fonctionnera pas. On en avait parlé avec Mehdi, hein, mais il y a beaucoup de niches qui sont en train de se créer, de différents types de mangas qui n'étaient pas forcément représentés en France, qui sont désormais ici en fait.
Et quand Anna disait que ça peut durer très longtemps, c'est notamment le cas quand il y a plusieurs ayants droit.
Oui.
Notamment si c'est une adaptation de jeux vidéo ou d'animé. Ça rend les négociations compliquées.
Et du coup, dans ce processus-là, vous, justement, on parlait de passage de relais, de passage de ballon. À quel moment vous allez rentrer dans le processus, Anna ?
Nous, on rentre en tant que... on rentre plutôt au moment de le titre est acquis et le titre est planifié. Dès que le directeur éditorial dit « Ok, ce titre-là, on va le sortir en 2022-2023 », c'est à partir du moment où on a un horizon de sortie que là, on peut se dire « Ok, maintenant, c'est à nous ».
C'est bon. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, du coup, Mehdi vous fait le brief. Mehdi ou Olivier, du coup, selon la maison d'édition. Et il vous fait le brief pour vous expliquer, justement, comment, dans quelle direction on va aller avec Pika.
Oui. Alors après, il nous fait le brief pour nous présenter la série.
Mm.
Nous dire, voilà, c'est la série, ça va parler à peu près de ça, c'est à peu près tel sujet. Je l'imagine dans telle collection. Et ensuite, il va sortir à tel mois. Et voilà. Maintenant, c'est... À votre tour.
Être éditrice, c'est se trouver un peu, j'ai l'impression, en place centrale dans la vie d'un manga, c'est-à-dire entre le moment où il est acquis et le moment où il va arriver justement dans les librairies et les mains des lecteurs et lectrices. Et vous travaillez, du coup, je pense, main dans la main avec un peu toutes les compétences, en fait, qui vont permettre à nos mangas d'arriver dans les librairies. Et ça fait de votre métier quelque chose qui touche à tout, même si vous venez un petit peu du même cursus d'études d'éditrice. Quelle est votre journée type? Comment ça se passe, une journée d'éditrice, Julie?
Justement, comme tu le dis, il y a beaucoup de tâches qui dépendent d'autres personnes. Donc, souvent, le matin, on regarde nos mails et ça permet de résoudre tous les problèmes ou de répondre à toutes les questions qu'on nous pose, parce qu'on suit pas un livre à la fois, on suit plusieurs livres à la fois, et donc on doit vraiment être au tac au tac sur tous les problèmes. Et moi généralement je fais ça le matin pour que l'après-midi je me concentre plus sur une grosse tâche. La plupart du temps, une relecture d'un manga.
Donc du coup, est-ce que Anna, c'est un peu pareil? Est-ce que t'as un processus différent pour organiser ta journée?
Non, globalement, c'est ça également. Le matin, on lit nos mails, on répond à toutes les questions, toutes les sollicitations. Après, on a différents types d'intervenants. En effet, nos correspondants privilégiés, ce sont les traducteurs et traductrices. Et ce qu'on appelle aussi les lettreurs, qui sont les personnes qui mettent les textes dans les bulles et qui dessinent les onomatopées françaises, etc. Donc, qui préparent en fait le manga en français. Et donc, c'est vraiment eux avec qui on discute le plus, en plus des collègues, du directeur éditorial, du marketing qui peut éventuellement nous demander des éléments. Donc, tout ça, on règle en effet ça plutôt le matin, parce que quand on arrive et qu'on a 15 mails dans la boîte mail, on a plutôt envie de les traiter. Et en effet, après, on peut se pencher un peu plus sur différents types de relecture, soit une relecture de traduction, soit une relecture de manga directement, soit une relecture de manga d'un collègue. Des fois aussi, on se prête nos mangas en disant « Tiens, regarde mes fautes si j'en ai. »
J'ai voilà. l'impression, à vous entendre, que la relecture, c'est un gros morceau, en fait, du boulot d'éditrice. Quels sont les autres gros morceaux, du coup? Il y a la relecture, apparemment, donc je pense que c'est vérifier que tout est en ordre avant que ça arrive, justement, à l'impression. Mais est-ce qu'il y a d'autres gros morceaux que vous avez à traiter dans vos journées de travail?
En fait, l'éditeur, c'est l'élément central qui fait le relais entre différents intervenants. Donc, un des gros points, c'est de coordonner les tâches entre les traducteurs, les lettreurs, parfois voir des choses avec le marketing. Et nous, on doit faire le lien entre toutes ces personnes. Donc, il y a un peu un travail de coordination chez l'éditeur. Et avec ça, il y a la relecture. Je pense que c'est vraiment les deux gros points du travail d'éditeur.
Donc, c'est presque de la gestion de projet, en fait.
Oui, c'est essentiellement de la gestion de projet. D'ailleurs, parfois, on nous appelle des coordinateurs éditoriaux.
D'accord.
Parce que, bah, en fait, on fait de la gestion de projet, finalement.
D'accord.
On a plusieurs intervenants et on doit faire en sorte que tout le monde puisse apporter sa patte et ses spécificités pour former un livre qui est l'aboutissement du projet, en quelque sorte.
J'ai l'impression qu'il faut avoir des compétences en organisation vraiment développées quand on fait votre job. Combien chacune vous gérez de projets en même temps?
En fait, moi, pour l'instant, je suis la seule éditrice chez Nobi Nobi. Donc, en fait, je gère l'intégralité des projets Nobi Nobi. Donc, ça fait à peu près une centaine de volumes par an. Et c'est un peu dur de dire par mois. Ça fait une dizaine de volumes par mois.
Par mois, ok, différent. Et toi, du coup, Anna?
Alors, nous, on est une équipe un peu plus grande que chez Nobi Nobi. On est quatre éditrices internes. Mais on a une plus grosse production chez Pika que chez Nobi, donc on gère entre 30 et 50 titres chacune, à peu près. Et on a moins d'intervenants externes que chez Nobi, par contre. Du coup, on a plus tendance à mettre le nez dedans, on va dire. Mais parce qu'on a un peu plus de temps, vu qu'on a moins de volume que Julie, qui s'en fait une centaine toute seule.
C'est une réponse qui a été intéressante, du coup, parce que je me pose la question, est-ce que vous avez une spécialité, par exemple, shoujo, shonen, seinen, etc. D'après ce que j'ai compris, Julie, c'est plus un peu de tout, peut-être au sein de Nobi Nobi. Et Anna, tu as peut-être une spécialisation dans Pika Edition?
Alors, la spécialisation, c'est plutôt en fonction des goûts, parce que finalement, chez Pika, en interne en tout cas, on choisit les titres qu'on veut.
D'accord. Okay.
Donc quand Mehdi nous annonce le programme de l'année, ben on dit ah mais celui-là j'aimerais bien le faire parce que ça me parle. Et donc du coup on se spécialise un peu comme ça. Alors après c'est aussi en fonction des plannings des unes et des autres si ça peut nous arriver de vouloir un titre et que bah finalement on n'a pas le temps de le traiter donc c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupera. Mais en fait, notre spécialisation, entre guillemets, c'est en fait juste une question de goût.
Vous allez faire rêver des gens, je pense, là, va se dire que justement, on peut être éditrice sur tous les mangas qu'on a envie de voir. Ça peut être intéressant.
Bah, malheureusement, pas sur tous les mangas, surtout si vous avez beaucoup de choses. Ça, c'est le meilleur moyen de mourir au travail. Mais non, justement, faut quand même se centraliser sur certains titres. Mais en effet, généralement, c'est assez rare qu'une éditrice ou qu'un éditeur interne, en tout cas, face à un manga qui lui plaise pas.
Donc, est-ce que j'ai bien deviné, Julie? Est-ce que toi, justement, tu touches un petit peu plus à des genres différents parce que tu fais partie de Nobi Nobi?
Oui, du coup, je touche vraiment à tous les genres shonen, shoujo et seinen un peu. Mais en fait, Nobi Nobi, il y a quand même une direction éditoriale assez forte. Donc, ils sont un peu tous dans la même veine de manga bienveillant, feel good. Et du coup, je me retrouve vraiment dans tous les titres et c'est agréable de travailler sur tout. Et je dis ça vraiment sincèrement.
Mais chaque interlocuteur du Pika Podcast est un passionné et ça sent et ça s'entend. Et moi, je trouve ça génial. On va passer à la Pika question. Donc, la petite question au milieu de l'épisode. Quel est, selon vous, chacune, le manga le plus sous-coté qui mérite un petit peu plus d'amour, de reconnaissance, entre guillemets? Est-ce que vous pourriez justement nous donner envie de le lire, puisqu'il n'est pas encore peut-être bien découvert par ceux qui pourraient l'apprécier?
Alors oui, chez Pika, moi je sais que j'aime bien un manga qui s'appelle A Journey Beyond Heaven.
D'accord.
Qui est un seinen. Alors moi, c'est pas forcément du feel good chez Pika, hein, pardon. Par contre.
D'accord.
C'est un manga qui est post-apocalyptique où on suit. Il y a deux histoires en parallèle qui ont l'air liées, mais pour l'instant, on n'arrive pas très bien à savoir à cerner comment. Où on suit à la fois un duo de personnages qui sont dans un Japon dévasté par une grande catastrophe qui a eu lieu 10 ans plus tôt. Non, 15 ans plus tôt, et on ne sait pas ce que c'est que cette catastrophe, mais les ados qu'on suit ont 15 ans, donc ils le savent pas trop non plus, pour être honnête, mais ils vivent leur vie là-dedans, et donc ils ont un objectif, c'est de rejoindre le paradis, mais on ne sait pas ce que c'est que ce paradis. Et de l'autre côté, on a un espèce de jardin d'enfants qui est très fermé, on voit pas le ciel, mais c'est un espèce de jardin d'enfants qui a l'air paradisiaque, mm-hmm. Où tous ces enfants vivent une vie assez paisible. Ils ont des professeurs qui sont des robots et on ne sait pas encore très bien qu'est-ce qui se passe. Ils ont l'air d'avoir des espèces de pouvoirs psychiques, mais on ne comprend pas très bien pourquoi. Et c'est un scénario dont les ficelles se dessinent petit à petit. Et c'est assez bien mené. Le mangaka arrive vraiment à intriguer sans donner trop de réponses, mais en posant énormément de questions, mais sans le frustrer non plus, parce que quand on pose trop de questions, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, c'est bon, tu peux bien en lâcher une réponse, mince. Non, il arrive quand même à distiller ses réponses et ses questions de manière assez intelligente. Donc, c'est un manga qui se lit et qui se suit vraiment de manière assez fascinante. Et moi, je l'aime beaucoup, en tout cas.
Tu travailles dessus?
Oui.
Et il y a combien de tomes publiés en France? Est-ce que c'est terminé, en cours?
Non, c'est en cours au Japon, c'est en cours en France aussi, du coup. Nous, on est à 6 tomes. Je crois que le 7 sort bientôt. Alors, par contre, défaut d'éditrice, nous ne savons jamais quand est-ce que nos livres sortent.
Vous êtes déjà en train de travailler sur les futurs volumes, c'est ça?
C'est ça. Donc, moi, je sais que j'ai fini le 7, mais je sais pas quand est-ce qu'il sort. Et les Japonais en sont au 8. Donc, on
D'accord.
a quasiment.
Ah, on les suit près.
Oui, alors c'est bon, on a quasiment rattrapé. Et oui, non, ça a un rythme assez sympa. C'est assez lent, mais en même temps, ça se construit vite. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme rythme de lecture, en tout cas.
Ok, mais c'est pas du feel good.
Non, non, ça a une ambiance un peu tranche de vie, donc ça peut être un peu trompeur, mais... Ça peut, disons qu'on sent qu'on est un peu sur un fil et que ça peut virer au cauchemar au
D'accord.
moindre faux pas.
Tranche de vie apocalyptique.
Ouais, voilà, c'est ça. c'est assez sympathique, en tout cas.
Ok, Julie, quel est ton choix, toi?
C'était difficile d'en choisir qu'un seul titre.
Allez, tu peux en dire deux si tu veux.
Non, j'aime beaucoup Mon ami des ténèbres. Donc c'est un titre qui se passe dans une école sur une petite fille qui rentre dans une nouvelle école et elle a un air qui fait un peu peur, un peu gloomy. Du coup, ses camarades se moquent d'elle et sont méchants avec elle. Ils l'appellent la sorcière des ténèbres. Ils sont vraiment méchants. Et il y a un petit garçon, il apprend que c'est la sorcière des ténèbres et il dit « Waouh, c'est trop cool !» et ils deviennent amis. Et c'est
D'accord.
vraiment un manga sur des vrais problèmes qui se passent à l'école, mais sur un ton vraiment bienveillant. Et en fait, plus ça avance, plus les relations entre les personnages se développent. Et à chaque fois que je le relis, je pleure quasiment à chaque volume parce que c'est vraiment touchant.
Donc c'est feel good au point de faire pleurer, quoi. C'est vraiment.
Oui, c'est voilà.
Ok. Et du coup, même question. C'est en cours, terminé ou est-ce que ça en est?
C'est en cours. Ça a commencé l'an dernier et actuellement, moi aussi, je m'embrouille avec les volumes. On en est autour du 7, je crois. J'essaye de voir.
Je vois que tu regardes sur le côté voir si tu peux les voir.
Je crois que le dernier que j'ai relu, c'était le 7.
Okay. Ok, ben on mettra de toute façon toutes les informations dans la description du podcast si jamais vous êtes intéressé par ces deux mangas qui peut-être mériteraient un petit peu plus d'amour de votre part. Anna, tu es éditrice chez Pika Édition et Julie, tu es éditrice pour Nobinobi. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ou peut-être pas fondamentales, mais dans vos façons d'appréhender ce métier-là et de l'exercer? Est-ce que finalement la sensibilité de Pika ou de Nobi se ressent dans votre travail au quotidien?
Alors oui, on a sans doute des sensibilités différentes. Déjà, nous, on n'a pas tout à fait la même façon de travailler puisque chez Nobi, Julie est quand même un pilier pour la maison d'édition. Elle est quasiment toute seule dans son rôle, mm-hmm. alors que chez Pika, on est une équipe. Donc, on gère pas tout à fait la chose de la même façon, dans le sens que chaque éditrice s'occupe de ses séries, ça change pas. Mais on a plus de temps à attribuer à chacun de nos titres. Et aussi, nous, on travaille souvent en binôme, entre guillemets, sur nos séries.
Ok.
C'est-à-dire que souvent, il y a une éditrice qui s'occupe vraiment de la coordination et de faire les choix éditoriaux et les discussions avec les traducteurs, etc. Mais on va régulièrement demander à des collègues de faire une relecture sur nos séries en disant « Tiens, bah, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais j'ai une collègue qui s'occupe de Heaven Design Team, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est une collègue qui s'en charge, mais c'est moi qui fais ce qu'on appelle la relecture croisée. Donc on va, je vais prendre la main sur faire une relecture comme un correcteur professionnel, mais avec un regard d'éditrice. Donc du coup, je vais faire des suggestions d'éditrice, mais pas que de correcteur orthotypographique. Et pour une série comme Even Design Team, c'est intéressant parce que le concept, c'est que c'est de la création des animaux au paradis. Et donc du coup, il y a beaucoup de recherches scientifiques à vérifier. Beaucoup de les noms scientifiques, les données assez vérifier que la biologie est réelle. Alors les Japonais ont déjà fait ce travail, mais il faut être sûr que notre version française n'ait pas d'erreur qui se glisse, parce que les mots japonais sont pas toujours les mêmes qu'en français, donc il faut bien être sûr de comment on adapte tout ça. La traductrice, bien sûr, fait ce travail, mais souvent une traductrice ou un traducteur, ce sont des gens qui font des lettres. Et du coup, la biologie, les maths, les sciences, c'est pas forcément le domaine de tout le monde.
D'accord.
Et donc, du coup, c'est assez intéressant d'avoir des gens de différents horizons. Et moi, il s'avère que moi, la science, ça me parle. Donc, du coup, D'accord. faire des relectures scientifiques, ça me gêne pas du tout. Donc, du coup, c'est souvent moi qu'on sollicite pour ce genre de séries un peu bizarres, un peu scientifiques. Donc, du coup, que ce soit de la SF ou des trucs de biologie, souvent je m'occupe de faire au moins la relecture croisée chez Pika, en tout cas. Ou alors, si on a la chance d'avoir un contact qui nous permet de carrément demander à un professionnel du milieu. Ça nous arrive des fois pour. Une série comme Brigade Immunitaire, on l'a fait. Mm-hmm. Mais voilà, donc on travaille un peu en équipe. Moi, pareil, j'ai des séries... J'ai une collègue qui adore la cuisine. Bah, j'ai une série où il y a des recettes de cuisine. Bah, je lui ai dit, relis-la moi. Comme ça, je suis sûre que mes recettes de cuisine sont nickel.
Elles tiennent la route.
Voilà, donc comme ça, on est sûr de pas se tromper. Et voilà, donc on peut s'échanger en fonction des spécificités et des goûts de chacun et chacune. Voilà.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je pensais que c'était juste le rôle du traducteur de vraiment faire ce genre de vérification.
Oui, le traducteur peut les faire, mais après c'est toujours utile d'avoir plusieurs regards. Et le traducteur peut même très bien le faire, mais ça n'empêche pas qu'avoir un second ou même un troisième regard, déjà parce que pour détraquer les fautes d'orthographe, on a quand même besoin d'au moins trois paires d'yeux. mais en plus, oui, pour faire des recherches scientifiques ou autres, ça peut dépanner aussi un traducteur quand il a un doute. Des fois, le traducteur nous dit « Ah, là, j'ai un doute sur ça, parce que ce plancton, là, moi, je sais pas ce que c'est, je trouve pas d'infos. » Et après, c'est notre rôle d'éditeur d'aller chercher, voir si on n'a pas des livres sur le plancton qui peut aider ou n'importe quoi.
Donc, il faut en plus beaucoup de culture générale, finalement, quand t'es éditrice.
Oui, dans le manga aussi.
Dans le manga aussi, il ne faut pas croire. Ils n'écrivent pas n'importe quoi. Du coup, Julie, comment ça se passe chez Nobby Nobby ?
Comme oui, je suis seule dans mon rôle, je fais pas des échanges avec d'autres collègues. Enfin, ça m'arrive d'aller dans le bureau Pika et leur poser des questions. Mais du coup, on travaille pas mal avec des externes. Notamment, on a des titres assez particuliers. Par exemple, on a les grands noms de l'histoire en manga. Et à chaque fois, il y a des informations historiques précises et il y a des petits dossiers à la fin. Avec plein d'explications, et on fait relire tout ça par Nicolas, qui est un professionnel qui aide à voir s'il y a des erreurs, des noms à corriger, des dates fausses, et c'est vraiment très important. Donc, du coup, on va essayer de faire les mangas les plus précis possibles. Et dans ces mangas-là aussi, il y a pas mal d'images, Et il faut savoir que les Japonais, quand ils nous vendent les droits des mangas, ils nous vendent pas les droits des images dans les bonus. Donc, on doit aussi faire un travail de recherche d'images. Donc, ça montre encore une fois que le travail d'éditeur est vraiment un travail polyvalent.
Pluridisciplinaire, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on
Exactement.
On a étudié comment être éditeur ou éditrice, mais finalement, il faut rajouter des cordes à son arc, en tout cas dans le milieu du manga. On pourrait penser d'ailleurs que votre travail, il est assez terre-à-terre, il est assez presque scientifique quand on écoute Anna, mais je suis persuadée que des passionnés comme vous, vous exercez quand même votre créativité dans votre métier, et je me demande comment vous faites pour mettre un peu votre patte à vous dans le travail d'éditrice.
En fait, selon moi, le travail d'éditeur, c'est pas tant mettre sa patte que d'essayer de retranscrire la patte des autres. Donc, dans un premier temps, de faire que le manga qui sort en France soit le plus fidèle possible au manga original. Par exemple, pour Orimiya, je communique beaucoup avec la traductrice, qui a fait un très bon travail, et elle a rendu vraiment le langage des personnages très fluide, très naturel, et comme ça, on essaye de retranscrire la même ambiance que dans le manga original. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est vouloir respecter la patte du traducteur, parce qu'il y a vraiment des traducteurs qui ont une patte, et ça se ressent beaucoup notamment sur les mangas humoristiques. Chez nous, par exemple, il y a Iruma, je trouve qu'à chaque fois, Johan fait un excellent travail d'adaptation, et du coup, l'éditeur va essayer de parfois peaufiner l'humour ou discuter avec le traducteur pour dire... Ah, et si on mettait ce terme-là pour rendre ça plus drôle?
L'éditeur, en fait, c'est quelqu'un qui doit s'effacer un petit peu par rapport au traducteur ou à l'auteur du manga original. L'idée, c'est vraiment toujours de respecter la patte des gens qui travaillent dessus. Sur les mangas humoristiques, ça se voit d'autant plus que ça demande pour un traducteur d'adapter énormément, puisque l'humour japonais, quand il est juste expliqué avec des jeux de mots japonais, enfin... Si on explique les jeux de mots, ça ne marche, c'est plus drôle. Donc un traducteur doit toujours un peu faire l'effort pour garder l'humour d'adapter les mangas humoristiques. Et c'est là où leurs pattes, je trouve, se voient le plus. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de sublimer ça, d'essayer de les aider à la garder aussi. Des fois, ils osent pas, ils se disent « Ah, mais là, je m'éloigne peut-être un peu ». Alors du coup, c'est à nous parfois de trancher en disant « Ah oui, là, tu t'éloignes peut-être un peu trop. » Ou de lui dire, non, vas-y, là, c'est drôle. On peut y aller, là.
Mais j'ai...
On avait...
Oui. Vas-y, excuse-moi, je pensais que t'avais fini.
Non, non, je prenais l'exemple de Komi cherche ses mots, où avec Kevin Stoker, le traducteur, on a eu une discussion dès le début du manga, où, en fait, on avait le problème, et c'était le challenge, des noms des personnages qui sont tous des jeux de mots. Et donc le choix, j'ai envie de dire sérieux, aurait été de juste expliquer les jeux de mots. Et nous, on a fait le choix un peu fou, mais un peu drôle, de proposer des jeux de mots français pour en alias de tous ces prénoms et de tous ces noms. Et là, on s'amuse en fait. Et les jeux de mots sont créés en fonction de notre échange, mais c'est à l'initiative de Kevin qui a eu cette idée et qui marche. Du tonnerre de Dieu. Enfin, moi, je trouve ça très drôle, en tout cas.
Mais à vous écouter, j'ai l'impression que c'est ça, votre créativité, en fait. C'est de chercher à faire la meilleure adaptation possible. Parce que les gens confondent souvent traduction et adaptation. C'est pas juste une traduction bête et méchante de ce qui se dit, c'est adapter l'œuvre pour qu'elle soit comprise de la façon dont on a voulu l'exprimer à la base.
C'est le travail du traducteur.
Mais vous l'aidez un peu là-dedans, en fait, en vérifiant derrière.
Il remet une couche, ouais. L'éditeur, du coup.
Vous remettez la couche de polish avant que ça arrive sur le marché.
C'est ça.
Du coup, j'ai une dernière question un petit peu bonus pour vous deux. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de garder le secret quand on sait que Pika va sortir des bombes dans les mois à venir? Parce que finalement, vous travaillez quand même bien en amont des sorties. Et quand vous savez qu'il y a un titre génial qui va être lancé, comment on gère ça?
Moi, je le gère assez facilement parce que, en fait... Je suis pas sur les réseaux, donc voilà, j'en parle à mes parents et à mon frère éventuellement, et puis ils sont pas sur les réseaux non plus, donc ça se passe bien.
Julie ?
J'avoue, il y a des titres, j'ai tellement envie d'en parler, mais du coup, on peut en parler avec les collègues, donc ça va. Mais...
entre passionnés, on peut échanger dessus, quoi, finalement.
Oui, mais des fois, c'est vrai que c'est dur, parce qu'on le sait parfois 1 an, 2 ans à l'avance, et on a vraiment qu'une envie, c'est que tout le monde le sache, et que tout le monde le lise, surtout.
Entre le moment où vous dites, voilà, c'est le point final sur ce manga-là, et le moment où on le retrouve en annonce, puis dans les librairies, il y a encore un créneau de temps, je pense, c'est pas une semaine ou 2 semaines, il doit y avoir quand même un petit peu de temps qui se passe.
En fait, on choisit très en amont les sorties des dates parce qu'il y a des réunions commerciales et après pour dire au libraire, ah, dans 6 mois par exemple, on va sortir tel manga. Donc en fait, le planning se fait vraiment très 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 en amont. Parfois, le manga n'est pas encore prêt de notre côté, mais on sait qu'il va sortir dans tant de temps.
Ok.
Mais ça, on vous en parlerez plus quand vous parlerez avec les personnes commerciales.
Service commercial et tout ça. Puisqu'il y a encore la fabrication, etc. Avant, il y a encore pas mal de choses, finalement.
Oui, parce qu'en fait, nous, en tant qu'éditeurs, éditrices, généralement, notre planning, dans l'idéal, dans le monde parfait où tout va bien et le planning ne bouge jamais, ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas. Généralement, nous, le planning de l'année suivante, on le prépare en avril, mai, juin.
Ah ouais, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de temps qui se passe. Enfin, quand c'est pas, parce qu'on en avait parlé avec Mehdi, il y a certaines sorties qui, justement, sont extrêmement rapides et d'autres sorties qui sont plus... Donc, c'est pour ça. Vous, le délai moyen, c'est quasiment 9 mois, en fait.
Oui, bah ça, c'est dans le meilleur des mondes, on va dire.
D'accord.
Souvent après on fait aussi en fonction de, comme Mehdi l'a dit, des fois il y a des sorties qui sont très rapides, notamment quand on a acquis un titre tardivement. J'ai l'exemple de Kaguya, Kaguya-sama Love is War, on l'a acquis en août, il est sorti en mars. Mm-hmm. Et en fait normalement on prévient les commerciaux des sorties de janvier, février, mars en septembre, donc on l'a annoncé immédiatement en fait. Mais il y en a certains, en effet, où on a beaucoup plus de temps et ils restent dans les tiroirs de chez nous pendant très longtemps sans que personne le sache.
Moi, je pense que c'est là que le secret doit être le plus dur à garder, quoi, quand on sait qu'il y a une petite pépite qui se cache. Puis, alors, c'est vrai que tu dis, Anna, que t'es pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où, effectivement, les futurs lecteurs et lectrices s'expriment le plus. Et je vois passer de temps en temps des questions sur les posts Pika. Est-ce que vous sortirez cette série-là? Elle est trop bien. Je me dis, quand on le sait, ça doit être un petit peu dur de garder le secret, quand même.
Moi, je rigole quand je vois ça. Je dis, ah, si tu savais, c'est à peu près ça, ouais.
On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez un petit message à passer ou quelque chose à dire avant qu'on conclue?
Je pense que dans les personnes qui vont écouter ce podcast, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au milieu du manga et qui aimeraient peut-être y travailler. Et moi, je leur dirais de vraiment s'en donner les moyens et d'essayer que... C'est vraiment un milieu où il y a des passionnés, donc si c'est vraiment leur passion, il y a peut-être une place pour eux.
Donc les conseils, on va peut-être raccrocher à ce qu'on disait du coup au début de l'épisode, c'est d'avoir peut-être une formation dans l'édition et puis de parler un petit peu japonais. On l'a dit, c'est un gros plus a priori pour travailler dans ce milieu-là.
Et anglais, comme on le disait.
Puis c'est bien parce qu'on peut consommer les mangas dans leur langue d'origine.
Après, il y a d'autres métiers dans l'édition qui sont aussi très intéressants. Moi, le podcast va continuer
aborder.
Sa série et va sans doute tous les aborder. Mais même si les études d'édition n'ont pas été prises, il y a peut-être des trucs dans la fabrication, dans le commercial, dans le marketing qui sont tout aussi passionnants. Donc si c'est juste, entre guillemets, juste le milieu du manga qui intéresse les auditeurs et auditrices, bah, y a aucun problème. Enfin, y a plein de portes d'entrée, en fait, pour entrer dans ce type de milieu.
C'est ce qui est génial avec ce podcast, c'est qu'on va voir tous ces métiers-là qui sont un petit peu inconnus et qui, je pense, sont tout à fait aussi passionnants que le vôtre. Bah, un grand merci pour votre temps, puisqu'on a bien compris, vous aviez au moins une petite dizaine de mangas chacune à gérer. Grand merci de nous avoir accordé un peu de temps et d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. J'espère que l'expérience vous a plu. Pour les auditeurs et auditrices, on rappelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur vos applications de podcast préférées, et puis surtout à poser vos questions en commentaire ou sur les réseaux de Pika Édition. Là, aujourd'hui, on a répondu à quelques-unes, c'était extrêmement intéressant, et puis on répondra aux prochaines questions dans le prochain épisode. Prenez soin de vous, et à bientôt dans le Pika Podcast.
Merci.